Donc, là, cette semaine, j'ai mis une couleur.
Un diagramme comme celui-là, on le trouve presque équivalent que vous dessinez dans les papiers d'Elbitz. Elbitz, il savait déjà qu'il fallait faire quelque chose comme ça, il dessine un truc comme ça. Il dessine ici des espèces de ellipses, deux ellipses et deux cercles. Donc, si vous voulez, c'est pas facile à faire. Deux ellipses et deux cercles. Il le fait mieux que moi. Il faudrait commencer par les deux ellipses, peut-être. Voilà une ellipse. Voilà l'autre ellipse. Et celles-là, elles sont plus ellipses. Bon. Et alors, du coup, les cercles, ils passent comme ça. Donc, Leibniz s'était déjà posé la question combien de cercles faut-il faire ou combien de zones obtient-on si on a quatre cercles, mais comment mettre les cercles de manière symétrique. Et Venn, il va jusqu'à calculer le problème quasiment analytiquement avec les trajectoires des ellipses, les équations des ellipses. Il se pose la question, quel est le nombre maximum de cercles peut-on disposer d'une manière symétrique pour obtenir toutes les zones atomiques, c'est-à-dire les 2 puissance n. Alors il va jusqu'à 6, et à 6 il démontre par le calcul analytique en géométrie sur les courbes analytiques que représentent ces cercles de Lhervène qu'on peut aller jusqu'à 6. 6 ronds et que dans 6 ronds, avec 6 ronds, il y a une des zones, la dernière zone, donc 2 puissance 7, 6, c'est-à-dire que quand il y a 16 par 2, ça fait 32, et ça fait 64. Il y a 64 zones, et avec des cercles qui sont des ellipses, oui, il impose aux ellipses d'être, lui, d'être toutes des ellipses. Je ne suis pas sûr qu'elles veulent avoir la même taille. Elles sont des ellipses. Les mêmes distances au foyer. Je ne suis pas sûr. Mais du coup, ils cherchent à caser 6 ellipses pour faire les 64 ellipses. Et il y arrive et il démontre qu'on peut y arriver, mais la dernière zone atomique qu'il trace, elle a une surface qui est quasiment tracée. C'est l'intersection de trois. C'est l'intersection de trois lignes comme ça. C'est une toute petite zone, mais on la refait à peine sur la figure que je fais. Parce qu'on voit bien les ellipses, elles sont grandes. Il y a une des zones qui est vraiment réduite à rien. Alors c'est bizarre qu'ils aient trouvé le besoin comme ça de faire un calcul métrique. Parce que nous, quand même, ce qui nous intéresse, bon là, moi je veux l'effet symétrique parce que je vous dis, c'est parce que j'ai étudié les nœuds et que Lacan il étudie la chaîne A4 quand il parle du symptôme de Freud. Donc on trouve ces figures-là quand on fait des nœuds et des chaînes coronaires avec 4 ronds. C'est un problème qu'on va retrouver. Il y a sûrement un lien entre ce que je suis en train de vous exposer aujourd'hui et ce que je vous expose en ce moment et ces histoires de chaînes et de nœuds. Bon. Bon, donc voilà, ça c'est les zones atomiques. Il faut disposer des ronds de manière à ce qu'ils se coupent, que chaque rond nouveau qu'on ajoute divise toutes les zones de schéma précédent en deux. C'est pour ça qu'avec 4 ronds, on peut faire comme ça. Avec 2 ronds, c'est facile. Avec 2 ronds, on fait ça. Avec 3 ronds, c'est facile encore. On peut mettre le troisième ici. Celui-là, il coupe bien les 4 zones. Les 4 zones des 2 ronds, il coupe bien en deux. Vous voyez ? Hop, 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 hop. D'accord ? Donc, pour mettre le quatrième maintenant, il faut faire un rond qui va se fermer en passant par toutes les zones. Alors, on peut commencer par où on veut. Si je commence par là. Mais qui va diviser toutes les zones de ici à 3 ronds, vous en avez 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est ça qui explique la puissance de 2. C'est qu'à chaque fois qu'on rajoute un rond, on divise toutes les zones précédentes en 2. Pour être sûr qu'il y ait toutes les combinaisons. Toutes celles qui sont précédentes sont déjà bien faites. Et les nouvelles, elles doivent être un coup à l'intérieur, un autre coup à l'extérieur du rond qu'on rajoute. Donc. On double toutes les zones. Alors, si je commence par là, vous voyez, je peux faire un parcours comme ça. Là, je traverse depuis cette zone ici, j'ai traversé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la zone 0, je suis assez vite. Voilà. Vous voyez, là j'ai parcouru, en mettant un haricot comme ça, j'ai parcouru toutes les zones précédentes. Et je les ai coupées en deux chacune, en passant. Donc ça, c'est pour le 4, c'est le plus simple. Mais c'est pas très symétrique, il y a une symétrie à 3, puis ça crée un déséquilibre. Bon, c'est bien pour nous. C'est bien pour l'idée que nous avons, nous, de ne pas faire une mathématique trop hygiénique et trop brusque, quoi. C'est-à-dire que ce soit quelque chose qui, comme je vous l'ai déjà dit, ce soit quelque chose qui s'approche plus de ce que nous retrouvons dans la langue et dans les langues. Faire une mathématique qui serait une mathématique, mais qui tient compte du fait que dans la langue, ça marche, mais c'est jamais exactement ça. D'accord, il y a un, c'est ça, mais à la gomme et pas aux petits oignons. C'est une jolie formule pour parler de la langue. C'est ce que vous avez tous appris à l'école quand vous faisiez des cours de grammaire. On vous énonce des sentences, des lois, et puis il y a toujours des exceptions. Vous avez remarqué, en logique, on essaye d'éviter ça, mais du coup, on reste dans une logique de scout. C'est-à-dire de petits gars où il n'y a pas d'autre sexe. Non, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a quelque chose à faire, c'est se tirer sur la queue pour la comparer en longueur à celle des autres. C'est ça, les scouts. Rappeur, parce qu'on ne peut pas emmener une femme dans le Grand Nord, quoi. C'est pas vrai. Il y a des femmes qui vont dans le Grand Nord. Bon, toujours est-il que, vous voyez, regardez, je vous donne un exemple simple de ce que j'appelle la mathématique. C'est la différence qu'il y a entre Lacan et tous les gens qui imaginent les mathématiques, même dans les langues. Prenez par exemple Queneau avec Oulipote, ils ont fait du ouvoir de littérature potentielle. Ça donne Pérec. Bon, il y a aussi Roubaud est un grand poète, mais il fait un cours, mais il fait ça à Olanzo, son cours de poétique. Dans l'Oulipote, ils font des exercices de scout. Alors que Lacan, il écrit la métaphore, une formule algébrique pour la métaphore et une formule algébrique pour la métonymie dans l'instance de la lettre. Ça plaît à personne, personne ne prend ça au sérieux. Donc un exemple que vous avez, pour que vous arriviez à juger pourquoi on ne veut pas faire de mathématiques où on en fait mal, c'est-à-dire que, vous voyez, ou bien on essaye d'imiter les physiciens où il n'y a pas de sexe. Les corps, ils sont dans la gravitation, ils sont soumis à des forces. Alors là, les mathématiques marchent d'une manière assez élégante. Il y a toute la mathématique classique, vous avez quand même des équilibres dans les formules qui fait qu'on arrivait à calculer intuitivement, même avant la théorie des ensembles, avant que ce soit fondé comme mathème, c'était intuitif. Les mathématiciens, bon, ils faisaient des erreurs. Leibniz, il fait des erreurs de calcul. Par exemple, dans le nouveau traité de l'entendement humain, qui l'oppose à Locke, on voit qu'il ne connaît pas la distributivité. Vous savez ce que c'est la distributivité? La distributivité, c'est comme ça. Si vous avez 3 qui multiplient 2 plus 5, c'est égal à 3 qui multiplie 2 plus 3 qui multiplie 5. Ça, c'est vachement. Vachement bien équilibré, c'est joli. On appelle ça distributivité parce qu'on distribue le facteur multiplicatif sur les deux termes de la somme. D'accord? Dans une structure d'anneau, dans une structure de groupe, où il y a deux lois, multiplicative et additive, eh bien, il y a la distributivité. Ça marche. Bon. Alors, ben ça, si on écrit d'une manière littérale, ça s'appelle lambda multiplié par x plus y égale lambda x plus lambda y. C'est pareil, c'est le passage du numérique au littéral. Hein. Et cette littéralité-là, c'est Viète qui a inventé ça, cette façon d'écrire. La puissance, là, les facteurs comme ça, les coefficients, la somme. C'est le comptable de Henri IV. Il faisait la comptabilité du royaume, et puis il était issu d'une bonne famille bordelaise. Et puis, à ses temps perdus, il a inventé l'algèbre moderne. Incroyable. Qui aujourd'hui est adopté par tout le monde. Donc Viète, on n'en parle pas beaucoup, mais Viète, c'est lui qui permet Descartes. Descartes, il va utiliser l'écriture de Viète pour écrire la géométrie algébrique, pour écrire à la place des courbes, pour écrire des équations, des formules. Et tout ça, ça fait que l'écriture, avec les figures de géométrie et Descartes, ou avec les nombres et Viète, ça fait que on a l'impression qu'on est dans l'écriture, dans le prototype de l'écriture alphabétique. Mais derrière tout ça, il y a l'écriture des nombres par position, qui est le seul système d'écriture du nombre. La façon de faire des chiffres avec simplement 10 caractères, et vous pouvez écrire tous les nombres jusqu'à sans aucune limitation possible, grâce à la position des chiffres. Et le système romain, il est moins bon. Pourquoi ? Parce que vous êtes toujours obligé d'introduire un nouveau caractère dans votre vocabulaire. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un vocabulaire fixé à l'avance. En base 10, vous écrivez avec 10 signes, 10 caractères, 10 chiffres, et vous pouvez tout écrire. Parce que chez les Romains, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, puis 4, c'est 5 moins 1. Donc là, vous avez 5 qui apparaît. Et puis ensuite, vous allez jusqu'à 9. 9, vous êtes obligé de faire 10 moins 1. Vous avez 10 qui apparaît. Et vous allez voir apparaître le 50, le 100. Et vous serez toujours obligé, le 500, le 1000, vous serez toujours obligé d'ajouter des nouveaux caractères plus vous avancez dans les chiffres. Vous voyez ? Donc c'est moins pertinent que le système décimal ou même dans une autre base, mais qui s'appelle le système d'écriture des nombres par position, c'est-à-dire les polynômes. C'est ça qui a fait que l'algèbre s'est développée comme algèbre polynomiale. Ça, c'est linéaire. Mais... Alors, ça vous dit quelque chose ? Tout le monde a déjà vu comment ça marche, l'écriture des nombres par position. Vous voulez que je vous donne un exemple, pour que ce soit bien clair ? Pour moi, ça... Je suis de l'avis de Derrida que c'est à mon avis le paradigme, l'idéal de l'écriture occidentale. Et toutes les croyances idéologiques, tous les préjugés occidentaux, racistes, colonialistes, et tout ce que vous voulez, viennent du fait que les occidentaux pensent avoir construit le meilleur système de numération par position, et que c'est un duplicate des nombres, comme Descartes va dupliquer en algèbre la géométrie d'Euclide. C'est le texte écrit est un duplicate des objets géométriques. Vous voyez, on est tout ça, ça va être recouvert dans le discours philosophique par le couple abstrait-concret. Dès que c'est de l'écriture, on oublie que c'est de l'écriture. C'est comme si l'écriture, c'était comme si on respirait, vous voyez, c'est de l'air. Alors on dit abstrait, ça devient abstrait, algèbre abstraite, arithmétique abstraite, géométrie abstraite, parce que c'est algébrisé. Et si on fait des figures, alors c'est concret, c'est concret. C'est la forme et la matière, on parle de forme algébrique. Tous ces couples, il faut que vous abandonniez ça, il faut que vous vous rendiez compte de ce qu'on appelle abstrait, formel, c'est de l'écrit. Et qu'on écrit quoi ? Ben, on écrit d'abord la voix, la parole, de la langue. Eh bien, alors, est-ce que la parole, elle est plus concrète ? Elle est corporelle. Mais l'écriture aussi est corporelle. C'est de l'encre sur le papier. Oh, c'est pas exactement la même corporealité que le signifiant. Moi, je ne mélange pas le signifiant et l'écriture, hein, la lettre. Mais je pense qu'il faut s'occuper des deux. Hein, même dans la psychanalyse. Freud, il a inventé une pratique qui propose de parler, et puis... Lui, il écrit 25 volumes. Et donc, l'écriture alphabétique paraît être de même ordre, ce résultat. Vous avez un livre dont je vous ai déjà parlé, d'une madame qui s'appelle Madeleine Davis, qui a été publiée grâce au CNRS il y a pas mal de temps, parce que là, quand on parle dans le séminaire aux années 60, qui s'appelle... C'est une histoire du déchiffrage des écritures mortes. C'est magnifique comme petit livre. C'est un petit livre comme ça que personne n'a acheté. Il faut encore le découper avec un couvre-papier. Et vous pouvez l'acheter encore si vous cherchez un peu, parce que c'était très peu lu, et Lacan le cite pourtant. Moi, je l'ai trouvé dans les années 70 ou 80. Je l'ai acheté chez l'éditeur. Et cette dame, elle raconte tous les préjugés des précurseurs de Champollion. C'est absolument magnifique. Vous voyez, tous les préjugés à propos de l'écriture que chez les Pitts, malin les Pitts, qui est quand même pas loin d'être un crétin, il avait des préjugés sur le chinois. Tout ça venait des jésuites qui avaient été conquérir, missionner la Chine, et puis qui avaient traduit le chinois. Et qui, c'est ces gens-là qui ont introduit la notion d'idéogramme. Ben, quand il dit, mais c'est pas des idéogrammes, c'est des lettres. Le problème, c'est qu'on sait pas très bien ce que c'est que lire, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que lire? Lire un rêve, lire un hiéroglyphe, lire un texte chinois, voilà. C'est ça qu'il faut dire. Madame Davis, cette Madeleine Davis, elle a fait un très beau livre, un petit livre, mais dans lequel elle énumère, elle a recherché, elle a extrait, elle a des archives, elle a trouvé toute une. Elle décrit l'état de la conception de l'écriture, des écritures mortes. Voilà, des écritures mortes, puisque c'est des anciens, c'est comme les mythes avant Lévi-Strauss, il faut qu'eux, ils soient bêtes. Il faut que ce soit des enfants qui soient un peu niais. Alors on est tout le temps en train de leur dire, voilà, on leur montre des images, ils savent que faire des images. Ils dessinent des images. Enfin, c'est projeté sur les anciens, jusqu'au néolithique, ce qu'on projette déjà sur nos propres mômes. Parce que, en plus, les mômes, c'est pas sûr qu'ils soient exactement comme on voudrait qu'on les pense. Hein. Peut-être qu'ils prennent autrement. Quand vous voyez, quand on leur parle, il y a des gens qui éprouvent le besoin de leur parler la langue. C'est pas la langue de Lacan. Hein. Non, vous parlez babile.
Bon. Vous parlez à son chien.
Oui, comme on parle au chien. Bon. Oui. Et maintenant, les vieux, on appelle ça Alzheimer, mais les vieux, on fait pareil. Ils sont de plus en plus incapables de parler, les vieux.
Non, mais le problème.
Bon, ils ont déjà des petits problèmes neurologiques. Et puis en plus, on leur dit allez, pépé, tu vas manger de la soupe. Pour vieux, le pauvre vieux.
C'est qu'on ne parle plus au chien.
Comment ?
C'est qu'on ne parle plus aux vieux, mais on parle au chien, c'est ça.
Mais non, on parle aux chiens, aux vieux, aux enfants de la même manière. Voilà. On se dit, il ne faut pas faire de verbe. Il ne faut pas mettre de verbe, il faut mettre juste deux mots.
Il y a un problème de what, de textile. Parce que ça va de 7 jours à très longtemps.
Vous avez l'air d'une théorie.
Deux ? Non, pas du tout, mais je suis absolument frappé par ce problème managérial des papeteries.
Ah oui.
Du papier. Mmh.
Alors, bon, ben, vous avez quand même l'amplitude de votre réflexion. Moi, j'étais juste en train de dire ce qu'on appelle le syndrome d'Alzheimer, c'est les psychiatres qui sont un peu liés aussi, qui posent des questions avec un questionnaire à des vieux. Quel est le président de la République actuelle? Il y a des vieilles, elles ne savent pas. Elles n'ont jamais écouté la télévision. Elles ne savent même pas le nom du elles connaissent le nom du maire, peut-être, ou des députés, ça ne va pas plus loin. Alors on en met une note et on finit par faire un diagnostic Alzheimer. Bon, il faut voir comment on leur parle. S'il n'y a plus de verbes. Alors bien, les premières choses qu'on oublie, c'est les noms propres. Mais ensuite, ça se dégrade régulièrement, comme on a appris à l'envers. Bon, alors je vous écris les nombres ou personne répond hein.
Avant, si vous pourriez.
Comment ?
Avant d'écrire les nombres, est-ce que vous pourriez matérialiser les points de contact, de croisement des trois années ?
Ah, vous voudriez dans celui-ci ?
Oui.
Vous voudriez, je peux vous les mettre en couleur, non ?
Oui.
Vous voulez les voir ? Les points de contact, c'est vrai que plus il y a de ronds, moins on voit bien ce qui se distingue. Hein ?
Non, c'est pas les points de contact, c'est les superpositions.
Ça, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de contact des trois cercles.
Voilà, mais c'est précisément les dessus-dessous.
Ah non, là, il n'y a pas de dessus.
Non, il n'y a pas, il y a
que trois. C'est un plomb, c'est une immersion.
D'accord.
Il n'y en a pas, c'est un schéma de leur tête. Là, il n'y a pas de dessus-dessous. Non, justement, c'est une réflexion. Qu'est-ce que le dessus-dessous va apporter? Le dessus-dessous, il va apporter ce dont nous avons besoin pour traiter au-delà de l'aliénation, de la séparation, ce qu'on va traiter ici. Comment on passe d'Aristote Boulle à Lacan? Qu'est-ce qui se passe avec Lacan? Hein? Lacan, il dit qu'il va modifier l'intersection. Donc chez Aristote, il n'y a qu'un sujet, il n'y a pas d'autre du sujet, il n'y a rien autour. Chez Boulle, il y a un sujet, il s'aperçoit qu'on peut faire quatre autres énoncés catégoriques avec l'autre du sujet, qu'on peut appeler non-S. Ah, ici, c'est non-S. Et là, alors ça, c'est la même chose, c'est un peu plus développé. Là, on n'est plus prédicapé, puis on regarde un peu de quoi on dispose au début. Et Lacan, qu'est-ce qu'il fait? Lacan, il va faire. C'est ce que j'essaye de construire, c'est une logique. C'est ce diagramme là-bas comme l'intersection de deux logiques, comme l'intersection et puis les deux logiques elles-mêmes. Mais au lieu qu'elles soient complémentaires l'une de l'autre, vous voyez ici, dans tout ce qu'il y a là, ces tableaux, on a nos deux logiques qui sont disjointes. C'est le point de départ de nos deux disques. S et A. A' et petit a. Il n'y a pas d'intersection. Alors si vous dessinez avec le diagramme là-bas, si vous dessinez l'intersection, cette situation, on va dire booléenne, hein, avec les quatre ronds qui donnent toutes les zones, pour avoir ça, il faut supprimer les zones qui dépassent de grand A et de grand S, qui sont dans A et dans A'. Donc ça, je les ai rayés dans B. Vous voyez, si je raye tout ça, dans petit A' et dans petit A, dans S et dans A, là, c'est ce que j'ai fait ici. Et vous, je les ai réunis ici. Ça correspond à ces deux écritures-là. Le domaine de départ, c'est deux disques troués. Mais les trous sont à l'intérieur des disques. Ils ne débordent pas. Ça, c'est l'aliénation première. Je reviendrai encore là-dessus, surtout si vous me posez une question. Donc, on a deux logiques qui sont deux logiques où il y a déjà une aliénation première du sujet, une aliénation première de l'autre. Il y a une partie perdue du manque. C'est l'aliénation que le sujet rencontre dans le trauma. Et ça fait que le vide, le zéro, implique le sujet. Ça, c'est dans Aristote. Et vous voyez ici, le zéro, le vide, il implique A, il implique S, et il implique la somme des deux. Le vide, cantorien, c'est ça, l'ensemble, le faux, les antilogies jouent le rôle du vide cantorien. Le faux nécessaire, les antilogies, elles impliquent tout ce qu'on veut. Bon. Mais c'est embêtant parce que, vous voyez, dans ce dessin, pour avoir cette situation-là, il faudrait mettre en continuité, il faudrait que A et A'. Vous voyez, parce que là, on a S et A. Bon, on est dans cette situation où il n'y a pas d'intersection, mais S et A. A et A', c'est le même. Donc il faudrait qu'il soit. Je ne sais pas comment vous pouvez imaginer qu'il y aurait une espèce de circuit de communication entre A et A' pour que A et A', ce soit le même, ce soit zéro. Bon. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'intersection dans ce type de dessin comme celui qui est là-bas, quand il n'y a pas d'intersection, toute l'intersection est rayée. Donc ici, je raye tout ça. En plus, vous voyez, je raye tout ce qui est l'intersection de S et de A. Voilà, boule, c'est quand vous rayez ça. Cette lunule au milieu, elle est aussi vide que ces parties de A et A'. Ce qui fait qu'il reste que l'extérieur, le disque rouge, un trou dans le disque rouge, un trou dans le disque vert, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 zones. Regardez ici, on a bien 5 zones. On a 5 zones ici. Une, c'est l'extérieur. 2, 3, 4, 5. Il y a 5 zones. Dans ce dessin, il y a 5 zones. Alors, vous voulez que je mette les couleurs? Vous voyez, les couleurs, je peux les mettre assez vite, bien à l'époque. Bon, je fais ça un peu vite. Hein. Voilà. Ici, il y a du rouge. Ça, c'est notre disque de départ. C'est la logique du sujet et la logique de l'autre qui sont extérieures l'une à l'autre. Ça, c'est déjà plus, c'est pas seulement dans Aristote, c'est dans Boulle. Parce que dans Aristote, il n'y a que quatre énoncés catégoriques. Ils sont tous dans S. Vous voyez ? Voilà la zone verte. Et j'ai rayé beaucoup de choses ici. Celui-là, je l'ai appelé, ce domaine-là, je l'ai appelé D alpha. C'est la première étape. D0, c'est la synchronie. Dans D0, vous avez toutes les étapes. Vous avez de quoi fabriquer toutes les étapes de la diachronie. Ça, c'est la première étape diachronique. Vous avez deux disques. Lacan, je vous ai montré ça avec des disques verts, avec un disque bleu et un disque jaune. Vous avez deux disques, un jaune et un bleu. Et quand ils se superposent, l'intersection, elle devient verte. Ben oui, les deux couleurs se composent, le jaune et le bleu, pour faire du vert. Mais si vous continuez à faire avancer les deux disques l'un vers l'autre, vous allez faire rentrer les trous A et A' dans l'intersection et vous allez voir apparaître la couleur. Vous allez voir les trous qui sont là, dans A et là, dans A'. Ils vont rentrer à l'intérieur de l'intersection, ils vont disparaître d'ici, ils vont apparaître là. Et ils ne seront plus des vides, ils vont prendre la couleur du disque qui est au-dessus d'eux ou en dessous. Bon. Alors voilà, ça c'est la thématique générale. Et qu'est-ce que c'est que cette thématique que nous sommes en train de développer? Je vous donne d'autres exemples de cette thématique qu'il faut arriver à apprécier pour ce qu'elle est. C'est votre difficulté avec l'algèbre de Boulle, avec les calculs. Hein? C'est très marrant quand même, c'est-à-dire qu'il y a un monde scolaire qui est vraiment plombant. Je vais l'expliquer. Donc, regardez, c'est magnifique la numération par position. 1275. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous le savez puisque vous l'employez. Vous voyez, comment vous faites pour employer ça sans savoir ce que c'est? Parce qu'avec, on vous a appris des algorithmes pour faire des sommes et des produits. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la comptabilité, vous faites des sommes et des produits. Maintenant, vous le faites faire même par une petite machine. Et les décimales, ça ressemble à ça. Donc, on évite les fractions. Et puis, on évite les puissances. On sait faire un certain nombre de petites choses avec ça. Et ça suffit. On se pose pas la question, qu'est-ce que c'est plus que ça? Alors que les mathématiciens, ce système de numération... Hein, ils se sont aperçus que ça donnait lieu à un objet algébrique qui est tout à fait passionnant, qui s'appelle le polynôme.